Alena Gebertova vous présente le bulletin d'information. Le ministre de la Justice, Pavel Niemetz, a se trouvé à la tête de la délégation tchèque à la conférence des pays d'Europe centrale et orientale qui a eu lieu à Sofia et qui a été consacrée à l'intégration des Roms dans la société majoritaire. Le projet international des cadres des Roms 2005-2015 a été lancé à cette occasion. Les pays concernés ont manifesté aussi leur volonté d'éliminer la discrimination et de surmonter l'abîme qui sépare les Roms du reste de la population. Le Conseil œcuménique des Églises, la Conférence épiscopale catholique, la Fédération des communautés juives se sont mis d'accord de créer une commission qui examinera l'intention des Églises de résoudre les relations patrimoniales et le dédommagement par un compromis. Le principe de solidarité entre les Églises est prévu, déclare Daniel Herrmann, porte-parole des évêques catholiques. Une exposition consacrée au centenaire du Belge Edgar Pierre Jacobs, grand représentant de la bande dessinée, a été ouverte dans les locaux de la délégation de la Wallonie-Bruxelles à Prague. Elle durera jusqu'au 25 février. Une initiative qui se propose de sensibiliser l'opinion à la situation difficile au Congo a été créée en République tchèque. Ces militants estiment que la situation dans ce pays africain est en marge de l'intérêt de l'opinion mondiale. Dans leur appel, ils revendiquent, entre autres, le respect de l'embargo sur les armes. Ouverture à Plzeň, chef-lieu de la Bohême occidentale ce jeudi soir, de la 25e édition du festival Journée consacré à Smetana, par un concert donné par le jeune pianiste français Victor-Emmanuel von Monteton, accompagné de la Philharmonie de Plzeň. L'interprète français, qui est aussi chef d'orchestre, est présenté à Plzeň comme une étoile de la scène musicale européenne qui monte. Aucune décision monétaire n'est tombée à l'issue de la session du Conseil bancaire de la Banque nationale tchèque. Le Théâtre national de Prague présente dès ce jeudi en première deux opéras modernes, médium de Peter Maxwell Davis et l'opéra de quatre notes de Tom Johnson, compositeur américain vivant en Paris. C'est pour la première fois que les deux œuvres sont exécutées à Prague. Météo, les routes en République tchèque sont praticables, avec beaucoup de prudence quand même, dans certaines régions dans le nord du pays notamment. Un ciel presque couvert, des chutes de neige, des températures diurnes autour de zéro sont prévues pour ce vendredi. Il va faire plus froid dès le week-end prochain, on peut s'attendre aussi à des chutes de neige plus abondantes. C'était le journal de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute de nos programmes en français. Le gouvernement tchèque a adopté un projet visant à abaisser le revenu minimum. L'affaire autour de l'appartement pragois du Premier ministre prend de l'ampleur. Bill Gates est à Prague pour le Forum 2005 des décideurs publics. Une proposition de loi en vue d'interdire la promotion de l'idéologie communiste va être déposée par des sénateurs. Tels sont les principaux thèmes que nous aborderons dans cette édition. En fin d'émission, nous vous parlerons également du voyage de plusieurs loups entre la République tchèque et le parc du Mercantour en France. À vous tous qui nous êtes fidèles sur Onde Courte, l'équipe de Radio Prague vous souhaite une agréable réception. Le gouvernement durcit les conditions à l'égard des personnes sans emploi. L'objectif est de les inciter à chercher activement du travail et d'empêcher la perception abusive des allocations. Les premiers à protester sont les associations civiques roms. Explication avec Jarka Gisubelova.
Au cours de sa session de jeudi, le gouvernement a approuvé le projet du ministre du Travail et des Affaires sociales, Zdeněk Škrmák, de revoir à la baisse le minimum vital. Si le projet était également adopté par le Parlement, le minimum vital passerait de 4300 couronnes à 2870, à peine 100 euros à partir du 1er janvier prochain. En réalité, le montant de minimum vital ne changera pas. C'est sa construction qui change, rétorque Zdeněk Škrmák à ceux qui critiquent cette mesure.
Il s'agira de calculer nouvellement le coefficient de manière à ce que les allocations maintiennent le même niveau qu'aujourd'hui. Maintenant, le minimum vital est composé de deux parties, l'une destinée à la nourriture, l'autre au logement. Le nouveau projet ne tient compte que de la partie destinée à la nourriture. Notre intention n'est pas de modifier l'ensemble du système.
D'après le ministre Škromach, l'allocation pour le logement ne disparaîtra pas, bien évidemment, mais elle sera avant tout l'affaire des communes qui devraient avoir l'obligation de financer une dotation spéciale pour le logement aux personnes ayant les plus bas revenus. Le minimum d'existence, selon les propres termes du ministre Škromach, constitue une autre nouveauté.
Le minimum d'existence est destiné à ceux qui ne cherchent pas activement du travail, qui refusent d'accepter sans raison valable un travail moins rémunéré ou des travaux d'utilité publique. Ces personnes n'auraient plus le droit aux prestations sociales, mais elles toucheraient le minimum d'existence qui serait de 2010 couronnes par mois et qui leur couvrirait leurs frais élémentaires, nourriture, vêtements, logement.
Les initiatives civiques roms sont les premiers critiques du projet en question. Petr Jan, vice-président du Parlement rom, le qualifie de catastrophique. Très souvent, les Roms cherchent du travail, mais n'arrivent pas à en obtenir. Il craint qu'il ne se passe ce dont nous avons été témoins en Slovaquie, après que le gouvernement ait abaissé d'un tiers les allocations. La somme de 2870 couronnes est trop basse, dit-il.
C'est à la limite vraiment. Une personne qui vit seule ne peut pas vivre avec cela. S'il a une famille, elle peut additionner les prestations, mais dans la pratique, cela peut signifier que les gens se retrouveront dans une situation de misère.
Six mois après son accession à la tête du gouvernement, Stanislav Gross est déjà au centre de plusieurs affaires révélées par les médias. La dernière en date concerne son appartement pragois. Selon le quotidien Mlada Fronta Dnes, en effet, ses derniers salaires n'ont pas pu lui permettre de s'offrir un tel logement et personne ne sait vraiment d'où provient l'argent manquant. Cette fois-ci, la branche tchèque de l'ONG Transparency International est également montée au créneau pour demander des explications au Premier ministre sur cet achat. Les députés de l'opposition ont eux aussi décidé d'interpeller Stanislav Gross sur le sujet à la Chambre basse. La défense de ce dernier reste jusqu'à maintenant assez bancale. Il a dû emprunter de l'argent à son oncle. Fin de citation. Après enquête de la presse tchèque, l'oncle en question a avoué ne pas disposer d'une telle somme et concédé qu'il l'avait empruntée à son tour à des membres de la famille à l'étranger. Et Stanislav Gross de menacer de poursuites judiciaires le quotidien Mlada Fronta Dnes pour avoir sciemment sous-estimé ses revenus. Dans son communiqué, Transparency International estime que le refus du Premier ministre de fournir des explications convaincantes donne lieu à de nouvelles spéculations et qu'une telle approche menace la crédibilité du gouvernement, tout en contribuant à la perception d'un taux de corruption élevé dans le pays. Dans son rapport 2004 sur la corruption internationale, Transparency International avait placé la République tchèque à la 51e position parmi les 146 pays figurant sur la liste, au même niveau que le Salvador ou encore Trinidad et Tobago. Six mois après son entrée en fonction, et alors qu'il s'apprête à briguer la présidence du Parti social-démocrate, le jeune Premier ministre a déjà de quoi se faire des cheveux blancs. Il devra être convaincant pour mettre un terme aux spéculations qui vont bon train à Prague. Celui qu'on appelle l'homme le plus riche du monde, le fondateur de l'empire Microsoft, Bill Gates, était à Prague pour y rencontrer une centaine de politiciens et patrons européens. Le but, comment faire de l'Europe un berceau de nouveaux cerveaux et de nouvelles idées. Comme le disait Bill Gates, je veux vous aider à devenir riche. Alain Slivinski.
Comment faire de l'Europe un continent riche? La recette de Bill Gates est simple. On investit des millions de dollars dans le développement et le fonctionnement de nouveaux centres universitaires. Le premier devrait se trouver d'ailleurs à Trento, en Italie. Le projet est ouvert à tous les pays de l'Union européenne, même aux nouveaux membres, donc à la République tchèque aussi. Le nouveau programme offert par Microsoft est ouvert à tous les étudiants. Les jeunes tchèques peuvent donc demander une bourse d'études qui leur sera accordée dans le cadre du programme Eurosciences, financé par Microsoft. La visite de Bill Gates à Prague s'est déroulée au rythme de l'informatique, donc de la manière la plus rapide, et chaque seconde était comptée. Le chef de Microsoft a eu le temps de rencontrer le président de la République, Václav Klaus, le premier ministre Stanislav Gross. Et après ces rencontres, la République tchèque est devenue le 20e pays du monde à posséder le fameux code de base du logiciel de Microsoft, les fameuses fenêtres, donc Windows. Bill Gates a réussi aussi à signer un accord de base avec deux sociétés tchèques de télécommunications, Český Telecom et Eurotel. Cet accord concerne la numérisation des foyers tchèques. Il est intéressant de constater que ce mercredi, deux forums décidaient de l'avenir de l'Europe. Celui dont nous venons de parler avec Bill Gates à Prague, mais aussi celui de Strasbourg, où les députés européens revenaient quelque peu sur la stratégie adoptée par l'Union européenne lors du sommet de Lisbonne. Les deux forums avaient pourtant un point commun, comment faire de l'Europe le plus riche continent du monde. Ces deux forums sont arrivés en fin de compte à la même conclusion. La priorité est donnée à l'éducation, la science et la recherche. À Prague, Bill Gates offre des milliards pour le développement de nouveaux centres universitaires. À Strasbourg, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, une adaptation des plans adoptés à Lisbonne, non plus seulement pour rattraper les États-Unis, éventuellement les dépasser au niveau économique, mais pour faire du continent européen un bastion d'une économie intelligente. Quand même intéressant encore en plus, un multimilliardaire américain présente à peu près les mêmes idées qu'un haut fonctionnaire de l'Union européenne.
Deux sénateurs tchèques, Martin Mejstřík et Jaromír Štětina, sont à l'origine d'une initiative qui vise à rendre contraire à la loi les idéologies communistes et nazies. Est-elle vouée à l'échec dans un pays au fort électorat communiste ? Réponse avec Magdalena Segertova.
Les juristes du parti politique La Voix du Changement, que représente le jeune sénateur et ancien leader estudiantin de novembre 89, Martin Mejstřík, ont d'ores et déjà préparé une modification du code pénal, a informé le quotidien Lidové Noviny. En deux mots, le communisme et le nazisme seraient désormais reconnus par la loi comme mouvements violant les droits de l'homme. Si le projet des sénateurs est appuyé au Parlement, le Parti communiste de Bohême et de Moravie, deuxième plus fort dans le pays et jusqu'à présent non réformé, serait au moins obligé de changer de nom. Ne s'agit-il donc que d'un geste plus ou moins symbolique de la part des deux sénateurs ? Le juriste et auteur de la modification, Jakub Pinta, explique. Cet amendement ne devrait plus permettre de mettre en cause certains faits historiques. Il faut pointer du doigt le mal pour qu'elles ne se reproduisent plus. Cela fait partie de notre réconciliation avec le passé. Une telle décision n'est jamais tardive. Fin de citation. Čestmír Čejka est porte-parole de la Confédération des prisonniers politiques en République tchèque, organisation qui réunit actuellement quelques 5000 personnes persécutées par le régime totalitaire.
Depuis le début, c'est-à-dire depuis 1990, nous faisons tout pour que le Parti communiste soit jugé équitablement. Nous partons du principe que la Slovaquie a été, après 1948, victime de l'arbitraire communiste, laissant des traces ineffaçables sur ses citoyens. Malheureusement, les nombreuses démarches juridiques que nous avons faites en ce sens n'ont pas trouvé d'écho sur la scène politique. On n'a jamais pu porter plainte contre le Parti communiste. Et pire encore, sa place dans le paysage politique tchèque a été officiellement reconnue par la législation. Voilà pourquoi nous saluons chaque initiative qui vise à exclure ce monstre politique et social de la vie démocratique de notre État.
Mais Čestmír Čejka, ancien prisonnier politique des années 50, précise.
Changer le nom de ce parti, c'est très peu. Nous devons juger les faits, les comportements, leurs conséquences, et enfin prononcer un verdict. Si quelqu'un avait le courage de le faire, mais vraiment, je crois que le parti n'aurait aucun espoir d'existence.
Même soutenue sur le sol du Parlement, la modification du code pénal risque de se heurter au refus de la Cour constitutionnelle, comme cela est arrivé en 1992. En cas de réussite, la République tchèque serait le premier État ex-communiste à mettre l'idéologie communiste hors la loi. Utopie ? Le temps nous le montrera.
Une meute de 10 loups tchèques vit depuis quelques semaines dans le parc national du Mercantour à Saint-Martin-Vésubie dans le sud de la France. Les animaux ont été livrés en France par deux jardins zoologiques tchèques. Václav Richter a demandé plus d'informations au directeur adjoint du jardin zoologique de Prague, Miroslav Špička.
Le zoo de Prague a livré 8 loups et le zoo de la ville de Plzeň en a ajouté encore 2.
Le transport a eu lieu le 16 décembre dernier. Il n'y a rien d'exceptionnel dans tout cela. Au cours de l'année dernière, nous avons réalisé quelques 800 affaires de ce genre. vente, échange, dépôt d'animaux. Nous avons donc procédé tout à fait normalement. Nous sommes entrés en contact avec la partie française qui désirait acheter nos loups, une bande de loups pour un nouvel élevage. Après les premiers contacts et les premières négociations, les représentants de l'acquéreur français sont venus chez nous, se sont entretenus avec notre directeur et ont observé les loups dans notre jardin. Je dirais que tout s'est très bien passé dans ce cas.
La livraison des loups tchèques au parc du Mercantour a été critiquée cependant, entre autres, par Jindřiška Staňková de l'agence qui doit contrôler le respect de la convention internationale CITES sur les ventes des espèces menacées. Selon ses paroles citées par le journal Mladá Fronta Dnes, le transfert des loups n'a pas été autorisé par l'agence et il est donc illégal. Miroslav Špička ne partage pas cette opinion et rappelle que le jardin zoologique jouit d'un régime d'exception pour le commerce des animaux dans le cadre de l'Union européenne, régime qui lui permet d'exporter des animaux avec l'autorisation de la municipalité de Prague. Néanmoins, d'après Petr Stiblo de l'Union de protection de la nature, les loups de jardins zoologiques lâchés dans la nature peuvent être dangereux. Il affirme que ces loups ont perdu leur instinct naturel et peuvent s'attaquer à l'homme. Miroslav Špička.
Já bych s tím vcelku souhlasil, pokud by to bylo vypouštění do volné přírody.
On pourrait être d'accord avec cette affirmation s'il s'agissait de lâcher des loups dans la nature. Mais ce n'est pas tout à fait le cas parce que les loups ont été lâchés dans une réserve clôturée où ils ne sont pas en contact avec les hommes ni avec d'autres animaux. Ils ne peuvent donc pas se mouvoir dans toute la France ou dans toute une région. C'est une réserve délimitée, surveillée et gardée.
Selon les dernières informations, les loups tchèques se sont bien acclimatés dans le parc du Mercantour et après quelques petits conflits entre les loups de Prague et ceux de Plzeň, une nouvelle hiérarchie s'est établie dans la meute.
C'est avec ces loups installés dans le Mercantour que se termine notre émission d'aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez Alena Gebertova pour le miroir de la société.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Une intéressante coopération entre la France et la Tchéquie dans le domaine de l'audiovisuel est le principal thème de ce programme diffusé tous les 15 jours. Imago est le nom d'une société audiovisuelle qui a été fondée en République tchèque il y a une douzaine d'années de cela par le prêtre français Noël Chou. Il en explique les motifs.
Il y a deux choses qui ont été à la fondation de Imago. La première, c'était d'avoir un outil qui produise dans un média que les enfants regardent, de produire des produits audiovisuels de qualité professionnelle et qui supporte les grandes valeurs humaines évangéliques. Hein, c'est-à-dire, d'abord, être des professionnels, ne pas être des bricoleurs des films. La République tchèque est très forte au niveau cinéma, en particulier animation, mais même dans l'autre cinéma. Elle a une télévision qui est très bonne, qui s'est reconnue par tout le monde. Donc si l'Église catholique veut faire des choses au cinéma et à la télévision, elle doit être professionnelle. Donc on a fait une boîte professionnelle, une SRO, qui s'inscrit dans un monde professionnel, qui doit gagner l'argent pour vivre, donc qui n'est pas subventionné par un donateur, je ne sais quoi, mais quelqu'un qui travaille et qui gagne sa vie. Donc c'était ça Imago, et tout ça pour dire aux enfants et aux grandes personnes dans les magazines pour la télévision ce qui nous semble important pour bâtir une société. Une société doit être bâtie sur la bonté, sur le respect des autres, sur la liberté, sur des valeurs qui sont humaines, quoi. La solidarité, et puis quelques valeurs chrétiennes comme le pardon, des choses comme ça. Et un petit peu le souci de Imago, c'est de bâtir des films, des produits qui présentent ces choses-là aux enfants et à la télévision pour les adultes dans des magazines.
Imago coopère avec le Comité français de radio-télévision. À ce jour, il a à son actif plusieurs films d'animation, dont Les Trois Mages ou encore Paul, aventurier de la foi. Il va de soi qu'ils sont destinés principalement aux enfants. Oldřich Selucký a écrit le scénario du film qui est consacré à Saint-Paul.
C'est une grande aventure, c'est une aventure sur la mer, c'est une aventure avec les bandits, nous connaissons tout ça par les Actes des Apôtres. Elle est intéressante aussi parce qu'elle transmet un message, elle présente un homme d'une grandeur humaine incommensurable, un homme qui a transformé l'Europe. Donc elle est intéressante aussi parce qu'il y a une profondeur derrière cette histoire. Les enfants connaissent aujourd'hui beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires, beaucoup de films. Peut-être ce qui est spécifique ici, c'est qu'à travers ce film ou à travers ce livre, les enfants peuvent percevoir une certaine profondeur chrétienne, humaine, et même historique. Saint Paul, c'est un personnage qui a créé l'Europe. C'est l'apôtre qui a fondé la première communauté sur le sol européen et qui a transformé, sans l'imaginer d'avance, toute notre histoire. Et je pense que c'est intéressant pour les enfants aussi parce qu'ils peuvent, à partir de là, discuter avec leurs parents, avec leurs catéchistes, avec leurs enseignants. Ils peuvent poser des questions. Il y a toujours des éléments qu'ils ne comprennent pas ou ne comprennent pas complètement. Et ils peuvent se demander qu'est-ce que ça signifie. Et c'est un point de départ qui est complètement différent d'un enseignement classique. Donc je pense qu'il y a plusieurs points qui sont intéressants.
Oldřich Selucký est aussi l'auteur de la version littéraire du film sur Saint-Paul, qui est d'ailleurs depuis 2002 distribué en France sur les vidéocassettes.
Écrire un scénario et écrire un livre, même si c'est sur le même sujet, comme on dit, ce sont deux affaires complètement différentes. Et moi, je les vis comme ça, la préparation est complètement différente. Quand j'écris un scénario, j'écris en images, je compose des images, j'ai dans la tête une série d'images dans laquelle j'essaye de faire percevoir cette histoire, ces personnages, ces événements, ces bonheurs et malheurs des héros du film. Quand j'écris un livre, c'est avec le mot, avec la parole que je me bats. C'est le charme de la parole que je dois percevoir, utiliser. C'est les métaphores, le rythme de l'histoire, le rythme de la parole, le rythme du récit que je dois maîtriser et mettre au profit de ce que je veux transmettre. Donc ce sont deux médias incommensurables, différents, qui ne transmettent pas du coup le même message parce que ils permettent de percevoir des choses différentes, même sur le même sujet conçu abstraitement.
C'est donc encore une fois la parole à Noël Chou, fondateur d'Imago, à propos du nouveau projet de la société qui se propose de présenter les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, un projet s'étendant sur les deux prochaines années.
Le judaïsme, c'est l'histoire un peu du peuple hébreu qui est en Égypte, qui va partir de l'Égypte, traverser la mer Rouge, avoir les tables de la loi, va arriver au bord de la terre promise, quoi. Hein, c'est cette histoire-là qui est racontée avec un enfant égyptien qui devient ami avec un petit hébreu et sa sœur. Et ces trois enfants, entre 7 et 12 ans, il leur arrive, alors tout ce qui leur arrive est vrai, je veux dire, ce sont des choses de la Bible. On n'a pas inventé des choses, on a inventé ces trois enfants, mais tout ce qu'ils vivent, ce sont les choses de la Bible. Et les téléspectateurs s'identifient à ces trois enfants. Le christianisme, c'est un petit garçon dont le frère est soldat romain, hein, et qui part avec la patrouille pour démonter les croix le soir de la... Et son frère, qui est soldat romain, marche, appuie le pied sur un clou, s'enfonce un clou dans le pied. L'histoire commence à partir de là. Il rencontre le groupe des chrétiens avec les premières questions, les premières expériences que font Marie-Madeleine et les apôtres d'une présence du Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et puis jusqu'au départ missionnaire en bateau pour aller évangéliser la Méditerranée. Et pour l'islam, c'est Mahomet qui est chez lui alors, et qui est chassé par les gens de sa ville et qui s'enfuit à Médine. Et un petit Hamed qui est là, qui va l'aider dans sa fuite, mais qui vit avec lui tout le départ de Mahomet pour Médine. Donc voilà, et on raconte ces prétextes à raconter les débuts de ces trois religions, ces trois grandes religions monothéistes. Et toujours là-dedans, il y a des gens qui se lient d'amitié. Et ça, je crois que c'est important pour les enfants d'abord, savoir que les autres religions existent, qu'on n'a pas inventé des bêtises avec ça. C'est des choses fortes, qu'il y a des gens qui le vivent de manière personnelle, et que ces religions, ce sont des choses qui conduisent à la paix, au bonheur, et non pas à la guerre.
C'était le miroir de la société et c'est la fin de notre programme en français d'aujourd'hui.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 116.